pourquoi la littérature, je précise, française, parce qu'évidemment, ce que je vais dire n'est pertinent qu'à propos de la littérature, je dirais même au sens métropolitain du terme, se trouve interpellée par la question de... par cette société du risque et donc interpellée par la nécessité de reprendre position par rapport au monde. Alors, je vais commencer par définir ce que j'entends ici ou sur quelle définition ou quelle conception, plus exactement, je vais m'appuyer pour parler de littérature. Et donc, je vous proposer, en fait, d'embrasser avec moi une conception anthropologique de la littérature et non pas une conception formaliste. Alors, admettons qu'un texte est littéraire dès lors qu'il s'élabore en étant conscient de ses moyens, de ses effets et de son pouvoir. Une fois ceci acquis, cette conception anthropologique, elle consiste en fait à mettre en lumière la place qu'occupent les œuvres littéraires dans l'ensemble des représentations formant lien entre l'individu et le groupe. J'emprunte cette définition à Claude Rechler. Alors, je disais que mon propos était pertinent par rapport à la littérature métropolitaine en langue française, parce qu'il n'a échappé à personne qu'à partir des années 50, il y a une dérive fortement formaliste, voire textualiste en littérature française, et que la dimension de la représentation du monde, en fait, s'est trouvée finalement libérée. Et les discours, justement, scientifiques ou techniques, c'est-à-dire des discours relevant davantage de l'expertise, ont pu s'emparer de terrain qu'un certain nombre d'écrivains ont délaissé. Donc je pense aussi bien aux écritures blanches dans le sillage de Blanchot, aux nouveaux romans, ou je pense même à la création d'une collection qui s'appelle Les Impassibles, assez récemment créée aux éditions Minuit par Jérôme Lindon. Bon, il se trouve que depuis, effectivement, 1980-1990, ce geste de sécularisation d'intérêt pour le siècle s'est de nouveau opéré et a été très sensible, en particulier dans un certain nombre d'œuvres qui sont parfois proches du docu-fiction. Je pense par exemple à des œuvres de François Bon, comme Daewoo, ou à des œuvres de Jean Rollin, ou qui sont parfois des fictions documentées à partir d'une expérience de terrain. Je pense à un roman d'Elisabeth Fiol qui s'appelle La Centrale, qui est documenté sur... qui parle en fait de la précarisation des emplois dans le nucléaire. En tout cas, donc, ces textes-là cessent de mettre le monde entre parenthèses et reprennent en charge, d'une certaine façon, le mandat de le présenter, de l'exposer, et ce faisant, d'exposer des situations, par exemple, de précarité pour ce qui concerne la centrale, et d'une façon générale de vulnérabilité sociale, économique, mais aussi souvent morale et symbolique. Donc, c'est cette conception anthropologique que je vous propose de partager en envisageant donc des récits littéraires qui réinvestissent le siècle et qui s'adressent aux lecteurs contemporains de ce siècle, évidemment. Je vais prendre donc pour exemple de textes qui cherchent à exposer et à analyser en même temps les cadres collectifs de l'expérience, deux récits particuliers. Un récit qui est ancré sur la biographie même d'Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne, qui est paru en 2009. Et un autre exemple, là, il s'agit d'un récit fictionnel de 2017, donc récent, de Tanguy Viel, qui s'intitule « Article 353 du Code pénal », dont je vais vous parler plus précisément, évidemment. Mais j'ai choisi ces deux récits-là, d'une part parce qu'ils sont justement, ils attestent, si vous voulez, la façon dont le mandat dont je viens de parler est investi par ces deux auteurs, et aussi parce qu'ils montrent, me semble-t-il, comme œuvre littéraire, que justement la littérature permet de se réapproprier le réel, dont par ailleurs, évidemment, les médias nous parlent, bien sûr, mais que la lecture du texte littéraire est une expérience qui est à la fois esthétique et cognitive, que nous devons donc, dont nous devons profiter. Et je soulignerai l'importance, à mes yeux, de la réflexion de la philosophe Martha Nussbaum sur le rôle de la littérature en particulier et le rôle des humanités en général par rapport à la question de la démocratie, parce qu'il me semble que cette invitation lancée au lecteur, hein, à se réapproprier le réel par le biais de la fiction en particulier, concerne aussi le présent et le futur que nous souhaitons. Martha Nussbaum a écrit en particulier un essai qui s'intitule « Poetic Justice, the Literary Imagination and Public Life » en 1995. Et il me semble que les deux textes dont je vais parler donc, peuvent illustrer hein, sa défense des humanités et aussi des études littéraires au nom de la démocratie. Alors, quelques mots de chacun de ces textes. Qui ont pour point commun, et donc je vais partir de cela, de mettre en scène une figure de juge, un juge d'instance qui est un juge réel. Hein, dans le livre d'Emmanuel Carrère, Étienne Rigal, juge d'instance au tribunal de Vienne, est chargé de contentieux du droit civil, c'est-à-dire des affaires de saisie sur salaire, de surendettement, c'est ce sur quoi je vais insister, de tutelle des personnes vulnérables, etc. Et puis, Tanguy Viel, dans l'article 353 du Code civil, invente, puisque c'est une fiction, un juge d'instruction. Et la fiction qu'invente Tanguy Viel se situe avant les années 90, c'est-à-dire avant, en particulier, si j'ai bien compris, que le concept de vulnérabilité ne soit adopté par le Code pénal, qui, je crois que c'est en 92. Le livre lui-même étant ultérieur, évidemment, hein, mais la date de la fiction est 90. Donc, ce point commun, c'est de mettre en scène une figure de juge, et pas du tout, évidemment, vous aurez bien compris, j'imagine, comme une figure de notable qui serait membre de la bourgeoisie de telle ou telle ville, mais de représenter ce que c'est que l'acte de juger, c'est-à-dire, en fait, ce que c'est que l'acte de délibérer, de qualifier, en particulier donc article 353 du code pénal se consacre hein, au travail mental que d'un juge qui va finir par qualifier juridiquement un homicide volontaire d'accident. Et le lecteur est invité en fait à épouser ce que j'appellerais épouser l'écoute du juge, puisqu'il y a un prologue narratif de 6 pages, hein, vraiment très bref. Et puis, au-delà de ce prologue, une première question du juge, que je vous cite. « Donc, vous êtes revenu seul, a dit le juge. » Et l'ensemble du livre, en fait, est consacré à l'échange entre le meurtrier et le juge. C'est bien sûr le meurtrier qui a le plus la parole, puisqu'il raconte hein, ce qui l'a conduit jusqu'au meurtre. Mais en tout cas, le lecteur est invité à accompagner le juge dans l'écoute que le juge réserve au récit que fait le meurtrier de cet acte qu'il n'a évidemment pas nié, qu'il assume et qu'il essaie aussi de s'expliquer à lui-même et donc évidemment d'expliquer au juge. Donc ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est de représenter cet acte qui consiste à se représenter soi-même ce dont on parle hein, en la circonstance, donc cette culpabilité du criminel, dans quelle mesure a-t-il été poussé jusque-là. Et les populations donc, qui sont en face des juges, soit le juge d'instance Étienne Rigal dans le livre de Carrère, soit le juge d'instruction dans le roman de Tanguy Viel, les individus qui sont en face hein, sont des individus vulnérables. Alors d'un point de vue économique, puisque ce Étienne Rigal qui se consacre donc à des questions de qui consacre beaucoup de son énergie à défendre des individus vulnérables en situation de surendettement, mais que l'on a largement aidé à se surendetter, évidemment se polarise sur la pauvreté, hein, sur la question de la pauvreté. Et dans le livre de Viel, en fait, bien sûr, il y a une dimension économique, puisque le meurtrier est un ouvrier licencié de l'arsenal de Brest, emblématique des milliers d'ouvriers qui ont été licenciés de l'arsenal de Brest, qui ont touché des indemnités de licenciement, mais qui vont se trouver escroqués par un promoteur qui engloutit l'ensemble des indemnités de licenciement dans un projet de spéculation immobilière qui ne verra jamais le jour. Et il y a, alors je fais une petite digression, parce qu'en lisant l'article 353 du Code pénal, c'est-à-dire la façon dont finalement chacun se laisse séduire par ce projet, J'ai beaucoup pensé au film « À l'origine », qui montre comment des populations, enfin des individus vulnérables, hein, qui ont le sentiment de ne plus participer à l'histoire, d'être définitivement ou à peu près, enfin qui craignent en tout cas, d'être définitivement mis en marge de la situation de l'emploi, peuvent croire quelqu'un qui semble avoir suffisamment d'assurance et évidemment aussi suffisamment de cynisme pour leur faire croire à l'émergence d'un chantier ou à l'émergence d'une station balnéaire dans une presqu'île qui ne se prête quand même pas beaucoup à la station balnéaire. Donc il y a une dimension économique puisque ce sont des licenciés, il y a une dimension sociale puisqu'ils se pendent, ils s'éprouvent hein, comme des laissés pour compte, avec cette, ce que les géographes appelleraient effectivement sans doute cet effet social hein, localisé, c'est-à-dire que la presqu'île de la rade de Brest dans laquelle se passe cet accident est présentée évidemment comme un lieu emblématique de, population, de paysages hein, qui sont, et de régions qui sont désertifiées et abandonnées. Ce qui fait que, c'est une métaphore utilisée par Vielle, la population qui est là est capable de recevoir avec une ingénuité extraordinaire, en fait, et d'écouter avec une ingénuité qui nous paraît extraordinaire, mais qui est proportionnelle à cet abandon, sans doute, le discours hein, d'un promoteur qui débarque là et qui, finalement, leur promet, ou en tout cas leur fait croire qu'ils peuvent ne pas rester en rade. Et la métaphore qu'utilise Vielle, c'est celle des Indiens effarés et naïfs, prêts à croire le premier, un pionnier qui arrive hein, en terre nouvelle. Alors, l'idée est que ces individus vulnérables, aussi bien les surendettés que ceux qui se sont ruinés en engloutissant leurs indemnités de licenciement, ont subi une atteinte aussi à leur intégrité et à leur dignité. Et il me semble que ce qui est aussi intéressant dans ces livres, enfin la raison pour laquelle j'ai choisi ce corpus, c'est qu'il y a une réflexion sur, en particulier par rapport à la question du surendettement, une réflexion proposée par Étienne Rigal et donc rapportée par Emmanuel Carrère, qui est celle du fondement du droit civil, c'est-à-dire une réflexion sur la notion de contrat. Alors, je vais un peu entrer dans le détail du sujet, parce que précisément, personne, ni Carrère, ni Vielle, hein, ne présente un juge ou n'invente un juge qui pense que sa mission, c'est de façon absolue et définitive de sauver la veuve et l'orphelin. Ils essaient juste d'appliquer le droit le plus justement possible, précisément, c'est-à-dire de considérer qu'il y a une inégalité entre des forts et des faibles et que le droit est aussi écrit pour les ignorants, pour les faibles et pour les démunis, je cite Carrère. Et que le juge, il incombe au juge, donc, et au raisonnement du juge, de prendre la mesure de cette inégalité, alors que le fondement hein, du contrat dans la théorie libérale postule l'égalité des parties, la responsabilité des individus et leur autonomie, et évidemment suppose qu'on ne doit pas signer un contrat sans avoir lu tout ce qui est en tout petit caractère, ni sans avoir su déchiffrer les métaphores ou les métonymies. Et il me semble que justement, dans les citations de contrat, Kofi Noga, Kofi Dis, etc. Enfin, de toute façon, ils sont tous équivalents. Les citations de contrat que fait Rigal montrent à quel point il s'agit de ne pas prendre au sens littéral ce qui est une figure de style, mais donc à quel point il faut d'abord avoir l'idée que ça pourrait être une figure de style. Et cette vulnérabilité-là, qui est donc aussi une vulnérabilité culturelle et symbolique, est considérée hein, par Rigal de telle façon que son travail à lui, c'est d'essayer de rétablir hein, une forme, enfin, sinon de rétablir une forme d'égalité, mais disons en tout cas de considérer qu'il y a une inégalité et qu'on ne peut pas se laisser d'une certaine façon abuser par cette idée. Hein. Alors, je voudrais un peu vous citer les textes parce qu'il me semble quand même que c'est le plus important et en particulier donc par rapport aux missions dont se sent investi Rigal, il y a au-delà hein, du fait qu'il faudrait plutôt finalement, et il cite précédent d'un juge des années 70 qui s'appelle Baudot. Il faudrait plutôt être partial pour être juste, ce qui évidemment n'est pas ce qu'on nous a a priori appris. Au-delà de cette intention, c'est-à-dire d'essayer de protéger les victimes, en fait, et de préserver les victimes, voire de compenser une chose dont les victimes auraient, enfin, dont les fautifs auraient d'abord été victimes, en fait. Au-delà de cela, il y a aussi une réflexion sur le contrat social et donc la façon dont le jugement rendu, et c'est le juge Rigal qui parle, peut ou non, en fait, aider à conserver un lien, la possibilité d'un lien social. Et en fait, le rôle du juge, dit Rigal, c'est cela, je le cite, c'est de sauvegarder un peu de lien social, de faire en sorte que les gens puissent continuer à vivre ensemble. Ce que ça veut dire, pratiquement, du point de vue de son métier de juge, c'est qu'il s'agit de faire la différence entre, puisqu'il s'occupe de surendettement, entre les petits artisans ou les petits commerçants qui restent débiteurs et puis les gros établissements de crédit qui ont, je le cite toujours, de toute façon inclus le risque d'impayé dans le prix de son contrat. Et le jugement donc qu'il porte va hiérarchiser les priorités du point de vue social, c'est-à-dire que bon, de toute façon, il y a une dette et elle est impayée, effectivement. Mais il s'agit de sauver la possibilité que le petit garagiste puisse encore une fois faire confiance et faire crédit, et ce faisant de sauver la possibilité d'un lien social là où le gros établissement de crédit a inclus déjà le risque d'impayé. Donc c'est la mission telle qu'il l'a définie, ce juge d'instance, la mission telle qu'il l'a définie. Et il établit aussi une hiérarchie entre les normes juridiques. Je cite le paragraphe. « Plus la norme de droit est élevée, plus elle est généreuse et se rapproche des grands principes du droit, avec un grand D. Faire payer son débiteur est un droit, c'est entendu. Mais mener une vie décente en est un autre. » Et lorsqu'il faut arbitrer entre les deux, on peut soutenir que le second relève d'une norme plus haute, donc l'emporte. Et cette hiérarchie des normes juridiques, donc, qui dicte la façon dont le juge Rigal et sa consœur dans le livre de Carrère ont fait leur métier, c'est cette question des normes juridiques, c'est aussi une question qui est posée, donc, à propos de la hiérarchisation entre le droit national et le droit communautaire, puisque le juge Rigal, les juges d'instance sont destitués par la Cour de cassation de France dans un arrêt du printemps 2000, signifie que c'est au plaignant de porter devant le tribunal et non pas au juge d'incriminer. Un contrat, par exemple, qui aurait été irrégulier, à ceci près que les plaignants sont rarement en possibilité, justement, de se rendre jusqu'au tribunal, même de décrypter les textes et les lois, bien sûr, qui pourraient leur permettre d'arriver jusqu'au tribunal. Et la Cour de justice des communautés européennes, au mois d'octobre qui a suivi, a établi, au contraire, qu'il incombait au juge national de remplir cet office. Et donc, toute cette réflexion qui est interne, évidemment, aux juristes et aux législateurs, de la hiérarchisation des normes et de la hiérarchisation des lois me paraît aussi particulièrement intéressante. Alors, le droit est fait aussi, dit Carrère, le droit est fait aussi pour les ignorants, pour les imbéciles, je le cite, pour tous les gens qui, certes, ont signé un contrat, mais qu'on a tout de même bien arnaqué. Et le droit est fait aussi, et je reprends cette phrase à propos de la question du sujet présupposé par le contrat, c'est-à-dire le sujet responsable autonome, et dont la capacité est équivalente à celle de la partie en face de lui. Le sujet, et ce sujet-là, c'est censé être un sujet, donc évidemment rationnel, ça va de soi, volontaire. Au sens où, bien sûr, sa volonté est tout entière. Médié par sa rationalité. Ce que montre le texte de Vielle, c'est que ce qui mène au crime un homme qui est tout à fait un honnête homme, qui n'a rien d'un spéculateur, qui est un socialiste, enfin, et qui, d'une certaine façon, se laisse abuser à son corps défendant, et j'insiste sur l'expression, par le miroir aux alouettes du promoteur véreux, c'est que le sujet n'est justement pas seulement un sujet rationnel et volontaire, mais c'est aussi un sujet désirant. Et le texte de Vielle met très bien en évidence le conflit interne au sujet, en fait, c'est-à-dire sa part de vulnérabilité, hein, cette scission-là, qui est évidemment vulnérabilisante, parce qu'à un moment où le juge d'instruction donc interpelle le meurtrier en lui disant « Mais enfin, Carmer, mais qu'est-ce qui vous a pris ?» Pour résumer la situation, il a donc été ruiné, etc. Et puis, le promoteur, je vous lis juste le début du livre, parce que l'efficacité de Vielle, hein, du style de Vielle est quand même extraordinaire. Le promoteur et son futur meurtrier sont sur un bateau, pêche, le homard. Je lis le début, sur aucune mer du monde, c'est la première phrase, hein, sur aucune mer du monde, même aussi près d'une côte, un homme n'aime se retrouver dans l'eau tout habillé. On était donc encore deux à ce moment-là, remontant ensemble le casier, comme deux vieux amis qu'on aurait cru être, à déjà voir les crabes se débattre et cogner les grillages, en même temps qu'on le posait là, le lourd casier, dans le fond du cockpit. C'est lui qui a sorti le homard et l'a jeté dans le seau avec assez de vigueur pour éviter les pinces qui ensuite s'échineraient sur les parois de plastique. Et il m'a dit, fier comme Artaban d'avoir pris un homard, il m'a dit « Kermer, c'est mon premier homard, je vous l'offre ». Je ne saurais pas dire aujourd'hui si c'est cette phrase ou une autre, mais je sais que pas longtemps après, je le regardais frapper la mer de ses bras alourdis, indifférent aux gerbes d'écume qu'il déplaçait. Il l'a donc balancé dans l'eau. Et quand le juge lui dit « Mais enfin, Kermer, qu'est-ce qui vous a pris ?» Le juge étant lui-même pris par une sorte de rage, il répond cette chose, c'est que justement, il y a eu en lui un cerveau, donc je parle de ce clivage hein, vulnérabilisant, il y a eu en lui un cerveau, et puis, qui évidemment ne croyait pas tout à fait à ce qu'il entendait, hein. Mais ce cerveau l'a déserté, je cite, « C'est comme si le capitaine qui était censé habiter avec moi dans mon cerveau avait déserté le navire avant le naufrage. Au lieu de dire clairement non, comme ça se passait au fond de moi, avec la voix d'un fantôme qui s'entend lui-même, j'ai pris le téléphone et j'ai dit « Je signe quand ?» Il s'agit donc d'acheter, hein, enfin d'utiliser son indemnité de licenciement pour participer à cette spéculation immobilière. Donc cette scission entre un cerveau qui fait défaut et un fantôme qui dit « je signe quand » me paraît éclairer le fait qu'effectivement le sujet et du contrat est aussi un sujet désirant, c'est-à-dire pas simplement volontaire, responsable et rationnel, et que cette dimension-là le rend vulnérable. A fortiori, quand il est lui-même dans cette situation de se sentir mis de côté hein, par l'histoire et que l'ensemble, finalement, des licenciés qui font tous comme Kermer, c'est-à-dire qui tous, finalement, se laissent abuser, regardent ce promoteur comme quelqu'un qui allait les sortir du marécage. C'est la métaphore, les sortir du marécage. Donc c'est sur un fond de désespérance quasiment hein, que peut séduire et que peut persuader le discours du promoteur. Je termine donc. Hein, la figure du juge n'est pas du tout au service hein, d'une représentation, disons, d'une classe sociale, si vous voulez, mais elle permet de rappeler que dans les deux cas, que le droit est institué pour respecter la règle de la solidarité et pour évaluer le rapport de la loi au droit, et en particulier donc l'évaluer lorsque ce sont des individus en situation de vulnérabilité qui se trouvent au banc des accusés, comme c'est le cas évidemment dans les deux livres. Donc il me semble que du point de vue hein, de la part que peut prendre la littérature dans ce débat, il est important de souligner que la représentation mimétique, bon, ces histoires, hein, ressemblent à la réalité que, par ailleurs, les médias peuvent renseigner. Mais la représentation littéraire, au sens où c'est une représentation esthétique élaborée, hein, permet de faire partager au lecteur ce qu'est l'acte de se représenter quelque chose, l'acte donc d'en délibérer. Hein, et à ce titre, elle permet aussi au lecteur de remettre en question ses propres représentations mentales, sans doute ses propres évaluations normatives. Hein, et elle permet donc de vérifier que c'est, je terminerai là-dessus, que c'est une pensée que Foucault et Rancière ont développée, si les textes se réfèrent, les textes littéraires, hein, se réfèrent au réel, ils peuvent aussi opérer sur le réel et avoir une certaine puissance d'intervention sur le monde commun. Je vous remercie.
Merci.